magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démontre sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. We can
breathe. Nous sommes à l'endroit où un homme a été tué. Mon cœur saigne parce que cela pourrait arriver à n'importe qui. Je suis ici pour lui, mais aussi pour tous les garçons, tous nos enfants qui sont déjà morts et pour les prochains qui seront tués eux aussi par la police.
Voilà ce qu'on pouvait entendre lors de la première messe qui s'est déroulée à Minneapolis après la mort de George Floyd. C'est 8 minutes et 46 secondes qui ont tué un homme et secoué un pays, les États-Unis, dont les citoyens sont massivement descendus dans les rues pour dire que les vies noires avaient de l'importance et pour dénoncer les violences policières. Et c'est ce qu'exprimaient ceux venus se recueillir devant la dépouille de George Floyd.
Je suis ici pour rendre hommage à M. George Floyd. C'est important parce que je vois tout ça arriver trop souvent. Et là, il y a écrit George Floyd et ça pourrait être mon nom ou celui de mon père ou de mon frère.
Mais cette question de la sécurité des Noirs américains, du respect de leur intégrité physique, ne peut être séparée des conditions économiques et sociales dans lesquelles ils vivent. Cette population noire américaine est en effet au premier rang des victimes des inégalités qui sont aujourd'hui l'une des caractéristiques du système capitaliste américain. Dans cette émission, nous allons donc décrire le niveau de vie des Noirs américains et nous attacher à comprendre les raisons de leurs difficultés actuelles sans oublier les racines historiques de cette problématique. Pour ce faire, sont réunis dans cette émission deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Patrick Bolton.
Bonjour Jean-Pierre.
Patrick Bolton, vous êtes professeur d'économie à Columbia University à New York et à l'Imperial College de Londres. Votre dernière publication est un ouvrage collectif publié en anglais, Green Swan, en français Le Cygne Vert, coédité par la Banque de France et consacré au rôle des banques centrales en matière de stabilité financière au temps du changement climatique. Avec vous en ligne, une autre invitée, Audrey Célestine, bonjour.
Bonjour.
Audrey Célestine, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Lille. Vous êtes spécialiste des questions raciales en France et aux États-Unis. Vous travaillez plus particulièrement en ce moment sur la politisation de la question raciale aux États-Unis à partir du mouvement Black Lives Matter. Et votre dernier ouvrage, La fabrique politique des identités, l'encadrement politique des minorités caribéennes à Paris et à New York, a été publié aux éditions Cartala. Voilà pour les présentations. Laissez-moi vous dire qu'au cours de cette émission, vous en entendrez plusieurs reportages. Naturellement, nous rejoindrons Anne Corpé à Washington, Eric Delsalve à Minneapolis et Lou Mnanaki à New York.
George Floyd's story has been the story of black folks.
L'histoire de George Floyd est l'histoire des Noirs parce que depuis 401 ans, la raison pour laquelle nous n'avons jamais pu être ce que nous voulions être, c'est parce que vous aviez le genou sur notre cou. Nous étions trop malins pour ces écoles sous-financées dans lesquelles vous nous avez envoyés. Mais vous aviez votre genou sur notre cou. Nous avions beau diriger des entreprises, vous aviez votre genou sur notre cou. Ce qui est arrivé à Floyd arrive tous les jours dans ce pays. Dans l'éducation, au sein des services de santé et dans tous les secteurs de la vie américaine. Il est temps pour nous de nous lever au nom de George pour dire « Enlevez vos genoux de nos coups ». Nous ne demandons pas de faveur, juste lâchez-nous pour que nous puissions être et faire tout ce que nous pouvons.
And we can be and do whatever we can be.
Cette voix, cette émotion, cette force, ce sont celles du révérend Al Sharpton lors des funérailles de George Floyd. Il dit les écoles sous-financées, l'éducation, les services de santé mis en cause quand il s'agit des Noirs américains. Est-ce que cela veut dire, Patrick Bolton, que lors des événements des dernières semaines, la dimension économique et sociale était présente ?
Bien sûr, elle est présente comme il le dit depuis toujours. Mais je pense que Il faut pas trop non plus tout attribuer à l'économie. Ici, il y a l'histoire raciale américaine, qui en particulier l'histoire récente, qui domine la question. Évidemment, le contexte économique est important. Par exemple, la crise du Covid a particulièrement frappé la communauté noire américaine, à la fois dans les décès, le nombre de décès, la proportion des décès, mais aussi économiquement, puisque l'augmentation du chômage a été disproportionnellement concentrée dans la population noire américaine.
Audrey Célestine, est-ce que les revendications sociales et économiques explique pour partie. Alors bien sûr, il y a ce soulèvement contre la violence policière, contre le racisme à l'état brut dont sont victimes les Noirs américains. Mais est-ce que dans ce mouvement, vous avez perçu des revendications sociales ou économiques, ou est-ce que c'est simplement le soubassement de ce mouvement ?
Écoutez, cet extrait que vous avez passé est très intéressant parce que depuis le départ, le mouvement Black Lives Matter s'est emparé de la question des violences policières, mais pour pouvoir tirer un fil qui était beaucoup plus long, qui est celui de ce qu'il désigne comme l'oppression générale des populations noires aux États-Unis, avec une approche très structurelle, en fait, du racisme et de ces logiques, et des logiques qui ont contribué à le nourrir. Et du coup, dès le départ, le mouvement Black Lives Matter a insisté sur un certain nombre d'enjeux liés aux inégalités économiques, aux inégalités de richesse, aux inégalités dans la possibilité d'accumuler de la richesse dans l'histoire des États-Unis, et en insistant vraiment sur ces points, même si le point d'entrée c'était les violences policières. Donc oui, très clairement, il y a ce mélange, exactement comme dans la séquence d'aujourd'hui, où on voit qu'il y a d'abord un moment très très fort d'émotion, de colère, de tristesse, mais qui est suivi par des demandes et des revendications très, très concrètes, parce qu'en fait c'est des gens qui réfléchissent à ces questions et à la manière dont sont articuler questions raciales et questions économiques et sociales beaucoup plus, encore plus large, en montrant à quel point tout cela est imbriqué. Et ça me semble important de le rappeler parce qu'en France, on a vraiment on a une vraie difficulté à comprendre les questions raciales comme autre chose qu'une espèce de poussée de fièvre identitaire qu'auraient certains. Les définitions, les appréhensions de la question raciale au sein de ce mouvement-là, c'est pas un enjeu identitaire. C'est un enjeu global dans lequel l'économique et le social sont en fait extrêmement forts parce qu'ils ont structuré historiquement la position d'opprimés des populations noires américaines.
Audrey Célestine, le mouvement Black Matters, est-ce que c'est un mouvement structuré, organisé, avec des comités locaux, des fédérations au niveau des États? Comment est-ce que ça fonctionne?
C'était une des questions qu'on se posait avec mon collègue Nicolas Martin-Breteau quand on a commencé à travailler sur le mouvement. Mais en fait, il y a une organisation très déconcentrée. L'idée, c'était pas du tout d'avoir une espèce de structure verticale qui dirigerait avec, voilà, un sommet qui dirigerait et qui dirait exactement. C'est davantage une espèce d'organisation qui fédère des groupements qui existaient déjà avant, des groupements qui se sont créés au début des années 2010 ou au milieu des années 2010, qui sont sur le terrain, avec une espèce de label Black Lives Matter, avec des différences idéologiques, même au sein même du mouvement, avec des groupes qui vont être complètement révolutionnaires et vouloir la fin du capitalisme, et d'autres qui vont être dans une, un soutien de candidats aux élections, de soutien démocrate, etc. Et du coup, on est vraiment sur une structure très horizontale, avec dans l'idée de faire émerger des leaderships très ancrés localement, des nouvelles têtes, des nouvelles figures dans le mouvement, et sans avoir une hiérarchie extrêmement forte, ce qui peut poser problème parfois, mais on est beaucoup plus dans l'horizontalité.
Patrick Bolton, vous disiez tout à l'heure que la crise économique qui a fait 40 millions de chômeurs a frappé aussi beaucoup les Noirs américains, qui ont été aussi beaucoup victimes du coronavirus, plus proportionnellement que l'ensemble de la population américaine. Pourquoi ?
Alors je crois que la question santé, elle n'est pas encore complètement élucidée. Bon, moi je ne suis pas un médecin, donc je ne peux pas vous éclairer là-dessus. Il y a des facteurs sociologiques qui ont fait que la population noire américaine était plus exposée.
Quels facteurs sociologiques ?
Par exemple, à New York, c'est vraiment l'épicentre du Covid aux États-Unis. Quand on regarde de plus près où le Covid a frappé, où il y a eu le plus de victimes, c'est dans des quartiers comme par exemple Queens ou le Bronx. Et dans ces quartiers, donc à forte concentration population noire américaine. Et dans ces quartiers, en fait, les hôpitaux étaient complètement débordés, pire que tout ce qu'on a vu en France. Alors que à Manhattan, le quartier riche de New York, il y avait beaucoup d'hôpitaux qui avaient des lits vides. Donc ça vous donne un exemple très concret de comment de l'inégalité de traitement de, au niveau de la santé.
C'est-à-dire que les quartiers où vit une forte population noire sont délaissés par les financements publics de santé ou privés.
Oui, et absolument. Et il n'y avait pas aucun système, comme en France, quand il y a eu, par exemple, dans le Grand Est, quand les hôpitaux étaient débordés, eh bien, on a délocalisé les malades. On a mis en place toute une infrastructure et il n'y avait rien de tout ça, ne serait-ce que à New York même. Dans la ville de New York même. Donc il y avait ce facteur-là. L'autre facteur, c'est que la population noire américaine, évidemment, est souvent dans les emplois peu rémunérés, qui n'ont pas d'assurance santé. Et donc, quand on n'a pas l'assurance santé, qu'est-ce qu'on fait ? On attend le dernier moment avant d'aller à l'hôpital, souvent quand c'est trop tard. Donc il y a des facteurs énormes comme ça. Ensuite, il y avait des facteurs une incidence plus élevée de diabète, dans la population noire américaine, et le diabète est un facteur à risque pour le Covid. Mais bon, on pourrait faire une liste énorme. Le Covid a été un révélateur tellement évident des inégalités qui frappent la population noire américaine.
On va prendre un exemple maintenant, Patrick Bolton, si vous voulez bien. Pas à New York, mais à Washington, qui est surnommée la ville chocolat du fait de l'importance de la communauté afro-américaine. Washington a été frappée, elle aussi, de plein fouet par le coronavirus. Anne Corpet, notre correspondante à Washington, a rencontré un jeune noir au chômage depuis 3 mois en raison de cette pandémie.
Mon nom est Gregory Allen, je suis barman et travaille dans les restaurants à Washington.
Gregory a 32 ans et est diplômé en biologie moléculaire. Il vient d'une famille afro-américaine pauvre du Missouri et assure que cela l'a handicapé pour trouver un emploi dans ce secteur. Depuis 13 ans, il travaille donc dans les restaurants de la capitale, passant d'un établissement à l'autre.
J'ai commencé un nouveau boulot comme barman le 13 mars dernier, et le lundi suivant, le directeur nous a envoyé un email nous annonçant la fermeture du restaurant jusqu'à nouvel ordre. Donc tout le monde a été licencié.
Mais son employeur précédent n'avait pas rempli les papiers nécessaires pour une inscription au chômage, et Gregory ne touche toujours pas d'allocation.
It's been something that I've been fighting with the government for almost 3 months, so I should expect my unemployment like literally.
Je me bats avec le gouvernement depuis bientôt 3 mois et je devrais toucher des indemnités bientôt maintenant. J'ai survécu grâce à mes amis et ma famille qui m'ont donné de l'argent. J'ai recours à une association pour avoir de la nourriture et j'ai obtenu le mois dernier des coupons d'aide alimentaire. Je ne paye plus mon loyer, je ne paye plus aucune facture. Le loyer ici coûte $1,000 par mois. Honnêtement, je sais que je vais être expulsé, mais cela ne me fait pas peur car j'ai de la famille dans le coin qui pourra m'héberger. Mais des millions de personnes vont finir à la rue.
Le coronavirus a affecté beaucoup de gens autour de Gregory, que ce soit sur le plan économique ou sanitaire.
My roommate, he also lost his job. My girlfriend lost her job. My mother is a postal worker. She was actually.
Mon colocataire a perdu son emploi, ma petite amie a perdu le sien, ma mère travaille à la poste et a été exposée au virus, et ma tante travaille dans un hôpital où elle ne dispose pas du matériel de protection suffisant. Les Noirs travaillent dans les secteurs les plus exposés et sont mis en danger. C'est vraiment frustrant et cela me brise le cœur. Ma petite amie a perdu quelqu'un de sa famille aujourd'hui à cause du Covid. C'est vraiment dur et éprouvant.
Gregory a décidé de quitter le secteur de la restauration où il dit avoir souvent été victime de racisme. Engagé dans le mouvement Black Lives Matter, il cherche désormais un emploi dans le secteur associatif pour aider sa communauté.
Un reportage Éco-d'ici, Éco d'ailleurs signé Anne Corpet à Washington. Audrey Célestine, il y a beaucoup de choses dans ce reportage. Il y a à la fois la question de l'emploi, il y a la question de la santé qu'évoquait tout à l'heure Patrick Bolton. Cette question de la santé, c'est un des principaux secteurs où les inégalités s'expriment aux États-Unis.
C'est l'un des nombreux secteurs, en tout cas. C'est vrai que la question de l'accès aux soins, des possibilités d'accès aux soins, comme le disait tout à l'heure Patrick Bolton, est effectivement un des gros marqueurs d'inégalité. Et puis, le fait que les gens aient très très peu, un peu comme le jeune homme dans le reportage, de filets de sécurité. C'est-à-dire qu'y compris dans un contexte qui était plutôt un contexte favorable pour l'emploi jusqu'à la crise du Covid-19, on s'en sort parce qu'il y a beaucoup d'emplois. En revanche, les filets de sécurité sont très, très peu nombreux, que du coup la possibilité d'avoir un accès à des soins de qualité sont également moins quand on a pas d'emploi, parce que c'est quasiment c'est très compliqué, c'est et quand on n'a pas d'emploi très qualifié ou très stable, ben ça mine d'autant plus l'accès à des soins correct, et qui, ça fait effectivement qu'on attend jusqu'à la dernière minute, mais effectivement, enfin, l'idée c'est que les populations les plus fragiles, même si elles ont bénéficié ces dernières années de l'expansion économique et de la situation de quasi plein emploi, sont également les premières à être touchées en cas de crise.
Mais par exemple, ce jeune homme, Grégory, qui était au micro de Dan Corpet, disait que malgré une formation de biologiste, il n'avait de biologiste moléculaire, ce qu'on imagine être une formation assez pointue, poussée et de haut niveau, il n'avait jamais trouvé d'emploi à la hauteur de ses qualifications. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est le résultat du racisme anti-noir aux États-Unis?
Je pourrais pas vous répondre précisément sur cette question, mais de fait, un certain nombre de jeunes diplômés ne trouvent pas exactement des emplois en adéquation avec leur niveau de qualification. Je trouve qu'un des exemples qui est assez marquant, il s'agit pas d'une femme noire, même si elle est latina, c'est la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, qui avait un diplôme universitaire, qui a fait des relations internationales et de l'économie, me semble-t-il, et qui en fait a dû lâcher son travail dans le milieu associatif parce que et travailler dans un bar et être serveuse, qui était son métier au moment où elle s'est présentée au Congrès, et qu'en fait dans un contexte dans lequel dans les villes les loyers sont devenus extrêmement élevés, dans lesquels on a un coût de la vie qui est complètement démentiel en milieu urbain, et avec effectivement la question des discriminations, je ne sais pas si dans le cas précis de cette personne c'était cette situation, mais la situation de discrimination existe dans le contexte américain. Effectivement, les populations minoritaires sont les plus touchées, et on se trouve effectivement face à des gens qui prennent des emplois qui sont en adéquation avec leur niveau réel de qualification.
Patrick Bolton, vous êtes enseignant à Columbia University, à Manhattan, aux États-Unis, à New York. Est-ce que cette situation d'étudiants noirs qui ne trouvent pas d'emploi à la mesure de leurs compétences est fréquente selon vous ?
Bon, Columbia, comme d'autres universités aux États-Unis, ont mis en place une politique de affirmative action.
De discrimination positive.
Voilà, discrimination positive. Pour résumer, c'est une politique qui a eu certains succès, mais qui est insuffisante. Et c'est aussi l'autre chose vraiment importante à souligner ici, c'est que la discrimination, elle se fait dès l'école primaire. Une fois qu'on arrive au lycée ou à l'université, c'est presque impossible de la contrecarrer, même avec des politiques très comme affirmative action, qui cherchent quand même à rééquilibrer. À ce moment-là, c'est déjà trop tard. Et quand on regarde la politique d'éducation aux États-Unis, c'est une catastrophe au niveau de l'école primaire, secondaire. Et là, c'est un défi énorme.
Qu'est-ce que vous voulez dire par la discrimination se fait dès l'école primaire ? Est-ce que ça veut dire que les jeunes enfants noirs américains ne reçoivent pas la même éducation que les jeunes enfants blancs américains ou latinos ou d'autres origines ?
De fait, oui, puisque les enfants noirs américains ont accès principalement à l'école publique du lieu où ils habitent, et l'école publique du lieu où ils habitent peut avoir une qualité d'enseignement bien inférieure à ce qui est accessible à la classe moyenne blanche américaine. Parce que dans les quartiers de banlieue, les écoles sont bien meilleures. Et après, il y a toutes les écoles privées auxquelles n'ont pas accès les populations noires américaines. Donc il y a une discrimination qui se fait dès le plus jeune âge.
Audrey Célestine, oui ?
Oui, en fait, c'est vrai que c'est assez effarant la situation aux États-Unis, y compris dans une ville comme New York, dont le système en fait scolaire est très ségrégué, dans lequel en fait on a clairement des écoles dans lesquelles vous allez avoir une très 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 grande majorité, des écoles publiques avec une très grande majorité d'étudiants des minorités, d'élèves des minorités, et des parents qui vont pas aller dans l'école de quartier, aller plus loin, et payer des sommes qui, de France, paraissent absolument démentielles, mais qui peuvent payer des 20 000 dollars pour une école primaire, avec du coup des écoles qui ont des ressources qui sont sans commune mesure avec ce que l'école publique, le réseau d'écoles publiques de la ville de New York peut offrir, avec des stratégies d'évitement de certaines écoles par les parents parce qu'il y a trop de gamins noirs et latinos dans l'école, et avec voilà cette espèce de système comme ça qui se cumule et qui fait que ben concrètement, y compris quand les écoles publiques essayent de faire ben, comme elles le peuvent, la différence entre le niveau de ressources, l'accès au type de professeurs, de ressources, de soutien de manière générale qu'on peut avoir dans les écoles fréquentées en majorité par des populations blanches et les autres écoles est absolument incroyable.
On voit souvent dans les reportages qu'on peut suivre sur RFI ou sur des chaînes de télévision, des séries policières souvent nous montrent une classe noire américaine, une population noire américaine de familles monoparentales où des femmes seules élèvent dans des conditions très difficiles leurs enfants, où les hommes sont soit emprisonnés, soit partis. Est-ce que cette réalité est vraie? Est-ce que ce morcellement des familles est un gros problème lié aux inégalités d'une manière ou d'une autre?
Oui, c'est-à-dire qu'on a à la fois ce paradoxe dans lequel on a une classe moyenne africaine-américaine assez importante, mais on a aussi des inégalités qui vont toucher. On a aussi une bonne partie de la population africaine-américaine qui est dans une pauvreté persistante, avec un taux d'incarcération qui est absolument énorme pour notamment les hommes noirs américains, qui, ben, du coup, avec le fait de passer une partie de sa vie en prison ou d'être particulier, enfin voilà, d'avoir, on parle souvent, et le mouvement Black Lives Matter parle souvent de cette espèce de viaduc qu'il y a entre l'école et la prison, que c'est l'école produit en fait des gens qui vont aller directement dans l'économie informelle, puis en prison. Ça a un effet extrêmement déstructurant dans le contexte américain, dans un contexte dans lequel on constate que même si ça augmente un peu, le niveau de mariage entre noirs américains et personnes qui ne le sont pas n'est pas très fort. On constate que le mariage interracial, entre guillemets, si le terme est un peu horrible, est globalement en augmentation dans l'ensemble des groupes, pas ou beaucoup moins pour les noirs américains, sachant qu'effectivement, je voulais rappeler que dans le contexte américain, on a des statistiques qui sont fondées sur des catégories ethno-raciales, et ce depuis le début de l'histoire des États-Unis, et qui permettent en fait d'avoir des éléments descriptifs assez fins sur un certain nombre de dynamiques sociales, et de voir que il y a effectivement sur la question des hommes noirs aux États-Unis un vrai problème en fait d'accès à des diplômes universitaires, d'accès à de l'emploi stable. On a une présence en prison extrêmement importante, mais qui sont liées là aussi, non pas à il y a eu pendant très longtemps des espèces de théories culturelles sur qui pathologisaient la famille noire américaine, mais on a aussi des familles dans lesquelles il a été impossible au fil des générations d'accumuler de la richesse. C'est-à-dire de généralement, quand vous avez une famille noire américaine qui accède à la classe moyenne, elle a depuis longtemps pas la garantie de ne pas voir ses enfants ressombrer dans la pauvreté. Une incapacité à accumuler de la richesse et à avoir du coup des patrimoines qui sont bien moindres que le reste de la population. Ce qui fait qu'on a vraiment des espèces de phénomènes comme ça structurels qui ont un impact réel sur une partie des familles de milieux urbains noirs américaines dans lesquelles les familles vont grandir sans père. Non pas parce que les pères sont particulièrement irresponsables, même s'ils peuvent l'être individuellement, mais parce qu'on a un système qui, de manière générale, fait que une très grande partie des hommes noirs américains font un passage en prison à un moment de leur vie, qui sont généralement jugés plus sévèrement, que la question de l'accès à la drogue va être considérée comme une et les enjeux d'addiction vont être considérés comme des crimes et pas comme des enjeux de santé publique. Voilà, tout un ensemble d'éléments qui vont affecter de manière disproportionnée les hommes noirs aux États-Unis.
On retourne sur le terrain. À Minneapolis, les émeutes ont frappé des quartiers pauvres afro-américains américains déjà précarisés par la pandémie du coronavirus et 2 mois de confinement en l'absence d'aide d'État pour les habitants. La première difficulté est souvent de trouver de la nourriture dans une ville où tous les supermarchés sont fermés ou ont été pillés. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Eric de Salve à Minneapolis.
C'est la queue devant l'hypermarché ce soir-là à Minneapolis, mais une queue de pillard.
Free for all. Take whatever you want.
C'est gratuit pour tout le monde, prenez ce que vous voulez, lance Mambo, un jeune afro-américain, devant les portes éventrées du magasin.
Peaceful protests don't work for black people.
Les protestations pacifiques pour les noirs, ça ne marche pas, dit-il. Pour réparer tout cela, il va leur falloir dépenser de l'argent, et cet argent, c'est ce qui va attirer l'attention.
That's what gets our attention, is the money.
Devant lui, défilent des femmes qui sortent du supermarché en poussant des caddies débordant de nourriture. Au milieu de gravats, de bris de glace, pillé pour protester, dit l'une d'elles, mais aussi pour manger.
Food, yes, we're hungry.
Oui, on a faim, on veut de la nourriture, on ne peut pas faire nos courses à cause des émeutes. On veut la justice pour George, la justice pour cet homme noir, parce qu'il faut que ça s'arrête, s'il vous plaît. Mais en attendant, on fait ce qu'on peut pour survivre. On vient ici parce que c'est notre seule solution. Il n'y a nulle part où aller. Je ne peux même pas aller à la banque retirer de l'argent. Je ne peux rien faire.
C'est la 3e nuit d'émeute à Minneapolis depuis la mort de George Floyd tué par un policier blanc. Tous les commerces, tous les supermarchés sont fermés, soit parce qu'ils ont été pillés ou incendiés, soit parce qu'ils sont encore confinés. Car cette colère noire éclate en pleine pandémie, dans des quartiers afro-américains déjà fragilisés par le coronavirus. Dans la journée, en l'absence de protection sociale, dans cette première puissance mondiale, les habitants s'organisent eux-mêmes pour trouver de la nourriture.
C'est un désert alimentaire ici. Il nous faut des produits frais. On ne trouve plus les aliments de base dont notre corps a besoin. Pas de produits laitiers, pas de viande, pas de fruits et légumes. C'était déjà un peu un désert alimentaire avant, mais maintenant ça devient urgent et vital. Il s'agit de nos besoins de base et tout le monde le voit.
Cet après-midi, avec ses lunettes de plongée et son masque anti-Covid sur le nez, Paul est venu chercher de la nourriture au bord d'une route de Saint-Paul, ville jumelle de Minneapolis. C'est là qu'une banque alimentaire vient d'éclore spontanément grâce à des appels aux dons sur les réseaux sociaux. Et ici, les volontaires comme Deren sont aussi dans le besoin.
On est resté confinés pendant 2 mois à cause de la pandémie. On venait tout juste de déconfiner depuis une semaine et c'est à ce moment que tout ça est arrivé. Je travaillais dans un des plus grands magasins de chaussures de Saint-Paul. Tout a brûlé et je ne pense pas qu'ils vont reconstruire. J'ai perdu mon travail. Maintenant, je suis au chômage. Mais ça ne m'empêche pas d'aider ma communauté.
Une solidarité de quartier indispensable, avoue Kim, en engouffrant des sacs de nourriture dans son coffre pour ses 3 enfants et ses voisins.
C'est une galère quotidienne. Plus aucun magasin alentour n'est ouvert. Ces provisions vont m'aider à nourrir ma famille, mais juste pour quelques jours de plus. Avec la pandémie, on avait déjà des pénuries de produits. Et maintenant, en plus de ces pénuries, les magasins sont fermés ou partis en fumée. Plus que des courses, ce qu'il nous faut, c'est la paix. C'est ça dont nous avons le plus besoin. Pour le moment, c'est la folie. Nous avons peu. Nous ne savons pas ce qui nous attend.
Et quand on lui demande que fait pour elle le gouvernement des États-Unis, bonne question, répond cette mère de famille afro-américaine.
C'était un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Eric de Salve à Minneapolis. Patrick Bolton, dans ce reportage, il y a un mot très fort que j'entends qui est désert alimentaire. Désert alimentaire pour les Noirs américains au pays de la junk food, des McDo, de... Est-ce qu'on peut vraiment parler de désert alimentaire?
Même la présence de McDonald's n'est pas nécessairement un facteur qui réduit le désert alimentaire. C'est un problème. Et je voudrais revenir sur cette question des émeutes, parce que c'est un sujet très sensible. Et il faut bien voir que il faut faire très attention à ne pas l'instrumentaliser. Et bon, ce qui est frappant, ce qu'il y a eu sur les 10 derniers jours de protestation, c'est qu'en fait, il y a eu relativement peu de pillages. Alors, à chaque fois qu'il y a un pillage, évidemment, l'administration Trump se réjouit et les met en avant. Mais quand on regarde, par exemple, une ville comme Detroit, qui a été l'épicentre des mouvements dans les années 60, il y a rien de commune mesure aujourd'hui. Il y a eu pratiquement aucun pillage à Detroit. Les mouvements étaient pacifiques. structurée et une grande maturité politique. C'est ça qui est frappant. Et je pense que c'est ça qui a un peu surpris tout le monde, qui fait que maintenant, peut-être, on aura l'espoir d'une issue positive de tout ce mouvement.
Mais une issue positive, Audrey Célestine, ça pourrait être quoi ?
L'issue positive, il y a plusieurs choses. Ça peut être que des demandes de longue date sur des réformes fortes de la police, sur des financements qui soient redirigés dans d'autres secteurs que le secteur de la police.
Parce
qui
que justement, Audrey Célestine, l'une des revendications fortes qu'on entend du mouvement Black Lives Matter et des manifestants ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est de réduire les financements de la police pour les réorienter vers d'autres secteurs d'intérêt général.
Tout à fait. Notamment, l'un des exemples qui est souvent donné, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont beaucoup de mal à s'imaginer ce que pourrait être un démantèlement total de la police. Ce qu'on explique, c'est que dans certains quartiers, les gens n'appellent pas la police, parce que la police n'est pas, ils ont identifié le fait que la police n'était pas là pour les protéger ou n'était pas là pour leur sécurité, et qu'il y avait davantage de risques à les appeler qu'à ne pas les appeler. L'un des exemples qui est souvent donné, qui est assez parlant, est le fait que si on appelle parce qu'on a quelqu'un dans sa famille qui a un problème psychiatrique et qui est en phase de décompensation, quand il fait une crise, en fait on devrait pouvoir appeler les secours. Le problème, c'est que la police arrive si on fait ça, et que vu qu'on est précisément face à quelqu'un qui va avoir un comportement erratique, qui va avoir des mouvements brusques, etc., elle risque de se faire descendre. Et du coup, les gens gèrent tout seuls, s'occupent tout seuls de ça. Et l'idée, c'est de dire, renforçons par exemple les équipes de personnes qui interviennent sur les urgences psychiatriques, et comme ça, les gens ne vont pas gérer seuls des situations qu'ils ne peuvent pas gérer seuls, mais qu'ils gèrent seuls parce qu'ils ont peur que la police vienne et tue la personne pour laquelle on leur a demandé d'intervenir, ce qui arrive. Et du coup, l'idée, c'est de rediriger des financements qui sont attribués à la police pour s'acheter de l'équipement toujours plus performant vers des secteurs sociaux dans lesquels, du coup, on ne demanderait plus à la police d'intervenir, parce que finalement ce n'est pas son travail, et que au niveau local, au niveau communautaire, que ce soit des acteurs beaucoup plus adéquats qui puissent intervenir en lieu et place d'une police surarmée qui en fait devrait être en fait remplacée par des formes de services sociaux au sens très large.
Audrey Célestine, je posais la question tout à l'heure à Patrick Bolton en faisant référence au reportage d'Éric de Salve de cette formule qu'on entendait dans son reportage de désert alimentaire. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Parce que quand on pense aux États-Unis, on pense pas évidemment à un désert alimentaire.
Désert alimentaire, c'est aussi les possibilités réduites d'avoir accès à de la nourriture correcte. D'avoir accès à de la nourriture à des aliments frais et sains sans avoir à utiliser sa voiture ou des transports. Il y a effectivement des quartiers où vous allez avoir des fast-food, et puis des quartiers où vous allez avoir des petits marchés fermiers de la région qui vont vous amener des produits bio et frais. C'est assez incroyable, comme on voit aux États-Unis, la différence entre tous ces gens qui mangent de manière tellement saine et de l'autre côté, moi je connais à la fois les gens qui mangent le mieux et les gens qui mangent de la façon la plus terrible dans ce pays.
Et ceux qui mangent de manière saine, ce sont des blancs?
Généralement, les populations à haut niveau de revenus, très éduquées, qui sont plus souvent, que les autres ne vont pas manger de viande ou de produits qui ne sont pas bio, et ce genre de choses-là. Alors que de l'autre côté, la nourriture de mauvaise qualité coûte bien moins cher. Elle coûte bien moins cher, elle est plus facilement accessible. Donc désert alimentaire, c'est à la fois le fait que des magasins ne vont pas être présents dans certains quartiers qui vont être délaissés par les commerces, parce que les commerçants estiment que c'est trop dangereux, que la clientèle elle est trop dangereuse, trop instable, qu'il y a un risque plus grand, comme ce sont des quartiers pauvres, un risque plus grand d'être braqué ou d'avoir des clients qu'ils vont juger objets indésirables, c'est à la fois ça et l'impossibilité d'avoir accès à une nourriture de qualité suffisante.
Les violences policières, on l'a vu, sont exacerbées par le fait que l'épidémie de coronavirus a dévoilé encore plus les disparités et les conditions de vie difficiles des Afro-Américains. Certains espèrent relancer un mouvement similaire à celui des droits civiques des années 60-70. Ils appellent notamment des campagnes de boycott. Pour eux, frapper économiquement pourrait donner davantage de pouvoir au mouvement Black Lives Matter. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Lumnan Aki à New York.
Depuis trois semaines, ils marchent et manifestent pour dénoncer le racisme et les violences policières contre la communauté noire américaine. Parmi les slogans répétés, des demandes de réforme au sein de la police, mais certains veulent aller plus loin et proposent d'autres formes de protestation.
Chaque groupe qui veut du changement sait comment provoquer ce changement avec l'argent. L'argent fait bouger et dicte la politique. Les noirs ont besoin de ce pouvoir collectif de l'argent pour obtenir le changement qu'on veut.
Il faut arrêter de dépenser. Arrêtons de rendre les riches qui se moquent de nous encore plus riches. Faisons en sorte que nos dollars aident notre communauté. Comme ça, quand on nous dit « dégage de mon magasin », on peut dire « avec plaisir, je vais aller dans mon magasin où on m'apprécie et où mon dollar compte ».
Dépenser son argent dans les commerces détenus par les Afro-Américains pour soutenir la communauté noire. L'idée est relayée sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Les adresses de restaurants, librairies, coiffeurs, boutiques de vêtements et même des cabinets de médecins sont partagées par ville et par quartier. Une initiative saluée par certains commerçants, surtout en temps de crise économique liée au coronavirus. Robert Allen Jr. gère le Melting Pot, un restaurant de spécialité jamaïcaine à New York.
The love has been amazing on social media. Like,
nous avons reçu énormément d'amour sur les réseaux sociaux et notre communauté locale nous soutient et ils disent allez soutenir ce restaurant jamaïcain. Ça fait vraiment la différence et on apprécie.
Dans le Texas, Calvin Martyr, lui, a lancé une campagne baptisée Blackout Day. Il appelle tous les Afro-Américains à observer une journée de boycott le 7 juillet prochain.
If for one day in America,
si pour une journée aux États-Unis, pas un seul noir ne dépense un dollar, ni en ligne, ni dans un fast-food ou restaurant, ni dans un magasin, je vous garantis qu'on aura du changement.
Touché à l'économie pour se faire entendre, Calvin Martyr dit s'inspirer de l'histoire américaine de la lutte pour les droits civiques.
On peut s'unir comme ils l'ont fait à Montgomery dans l'Alabama quand tous les noirs ont refusé de monter dans les bus. C'est ça notamment qui a permis à la loi sur les droits civiques de passer, parce qu'ils ont frappé aux poches.
Selon une étude américaine publiée en 2018, la communauté noire dépenserait plus $1 milliard par an. À travers son appel au boycott qui pourrait durer plus d'une journée, Calvin Martyr espère que cela aura un effet visible. Depuis le début des manifestations, sa campagne a reçu le soutien de quelques artistes noirs, comme le rappeur T.I., et elle compte désormais 1 500 000 signataires.
Un reportage signé Lumna Anaki à New York. Audrey Célestine, le boycott, vous y croyez? C'est quelque chose qui peut marcher?
C'est quelque chose qui, en tout cas, c'est un répertoire d'actions qui a toute une histoire aux États-Unis, puis qui a effectivement été l'un des facteurs qui a contribué dans les années 50. Le reportage fait référence au boycott des bus à Montgomery, et c'était effectivement un élément important que les gens ont tenu sur la durée pendant quasiment un an. La question du boycott, le fait d'aller faire ses courses dans des commerces noirs a été effectivement une chose qui, dès le début du XXe siècle, a été mobilisée. Le problème, c'est que c'est des opérations qui peuvent avoir un écho, qui en plus au temps des réseaux sociaux peuvent être très relayées, avoir un impact comme c'est le cas pour le restaurateur qui témoigne dans le reportage. Après, si on regarde le problème de manière plus structurelle, est-ce qu'il y a tant d'Africains-Américains qui ont des commerces dans lesquels aller faire ses courses? Est-ce que le tissu économique est suffisamment grand, suffisamment solide, suffisamment étendu pour que ça fasse effectivement une différence? Est-ce qu'au bout de quelques temps, une famille qui préfère aller un peu plus loin chez un commerçant noir va pas finir par aller dans une supérette plus près, moins chère, parce que c'est moins cher et qu'il faut surtout qu'on a des finances qui sont réduites? Donc moi je pense que c'est un répertoire qui peut faire parler, qui ajoute à la colère, qui localement et ponctuellement peut faire pression sur certains commerces. Je pense que tout seul, c'est malheureusement insuffisant.
Patrick Bolton, je fais appel au professeur d'économie que vous êtes. Un mouvement de boycott comme celui-là, ça peut fonctionner ?
Alors, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Audrey. Moi, ce que je vois, c'est que le boycott, ça va servir à renforcer la solidarité dans la communauté noire américaine. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment plutôt une bonne chose. Le boycott pour pénaliser les commerces blancs, j'y crois pas. C'est trop marginal.
Vous voulez dire que c'est trop marginal ? Vous voulez dire que le pouvoir d'achat des Noirs américains n'est pas assez fort globalement pour marquer ?
Oui, parce que c'est la population noire américaine est dans la pauvreté. Elle n'a pas de pouvoir d'achat. Donc de dire on va l'utiliser pour un boycott, ça va avoir un effet marginal globalement. Donc moi je pense que l'avenir pour dans ce mouvement, c'est un avenir politique. Et à court terme, la chose la plus importante pour avancer les choses, c'est de s'assurer une victoire de Joe Biden contre Donald Trump.
Audrey Célestine, on dit les Noirs américains vivent dans la pauvreté, mais quand même, il y a eu un président américain noir, Barack Obama, il y a eu avant lui des secrétaires d'État américains noirs, Condoleezza Rice, Colin Powell, il y a les maires de grandes villes qui sont noires, je pense à Atlanta, Washington, etc. Il y a une bourgeoisie noire, il y a des dirigeants politiques noirs importants dans ce pays. Ils font communauté, ils sont dans le même groupe social ou c'est vraiment complètement éclaté ?
C'est une grande question. En fait, il y a effectivement des parcours absolument incroyables de gens qui ont bénéficié, comme le reste de la population, de la période des Trente Glorieuses, de l'accès à l'université, etc. Mais on a aussi des poches de pauvreté qui se sont renforcées pendant ces dernières décennies. On a très clairement depuis le début des années 2000, mais déjà avant. Et en fait, les Obama, que ce soit Michelle ou Barack, les Susan Rice et Condoleezza Rice, etc., sont davantage des... que ce sont des exceptions serait abusif, mais ce n'est pas le cas général. On a à la fois ces gens qui ont pu effectivement s'élever et qui opèrent très souvent une ascension sociale forte, dans la plupart des petits voisins de Michelle Obama à Chicago n'ont pas eu la trajectoire qu'elle a eue. N'ont pas pu échapper à leur école ségrégée, sous-dotée et aux petits emplois d'après. Donc en fait, on a des gens qui ont des qualités souvent assez exceptionnelles, mais comme s'il fallait avoir des qualités assez exceptionnelles pour pouvoir s'en sortir dans ce système. Donc on est à la fois avec l'émergence d'une classe moyenne noire, d'une classe moyenne supérieure noire, d'une classe intellectuelle noire, d'une bourgeoisie noire, un bon tiers aussi de la population africaine-américaine qui est dans une situation de pauvreté et qui est complètement bloquée au bas de l'échelle avec une impossibilité à accéder même aux emplois les moins qualifiés.
Est-ce qu'il y a des milliardaires noirs ? Est-ce qu'il y a des super riches noirs ?
Alors, milliardaires, je sais pas. Je pense qu'il y a des très riches, notamment dans toute l'industrie du divertissement, de la musique, etc. Parce que les chanteurs et musiciens noirs sont globalement appréciés, que ce soit des rappeurs ou autres.
Les sportifs.
Donc on a effectivement des très riches, mais c'est aussi l'un des problèmes, c'est-à-dire que il s'agit là encore de gens qui ont des talents un peu particuliers et exceptionnels, et en fait il faut pouvoir promettre à une population et à une jeunesse autre chose qu'une réussite par le sport et par l'entertainment, par la musique et le cinéma. Parce que malgré tout, ben, ils sont pas si nombreux que ça, même s'ils sont plus nombreux qu'en France, ceux qui réussissent dans le domaine.
Ce qui est frappant, c'est que Patrick Bolton, dans les héros des nouvelles technologies, de l'émergence de la Silicon Valley, etc., il y a beaucoup d'enfants de la première ou de la seconde génération d'immigrants. Je pense à Jobs, je pense au fondateur de Tesla, etc. Et eux réussissent très rapidement, alors que des gens qui sont installés depuis des siècles, dont les familles sont là depuis des siècles, n'arrivent pas à se dépêtrer de cet héritage maudit de l'esclavage.
Tout à fait. Mais ces immigrants dont vous parlez, ou vous entendez immigrants, viennent déjà de milieux très aisés, de milieux très éduqués, et donc qui profitent pleinement des opportunités offertes par le système économique américain.
Et Audrey Célestine,
pour me permettre d'ajouter une chose, la question de l'héritage de l'esclavage, c'est pas juste une espèce de tâche qui serait surplombante. L'héritage de l'esclavage, c'est aussi la ségrégation, c'est aussi, j'ai dit à plusieurs reprises, l'incapacité à accumuler des richesses. On sait désormais que pendant des décennies, les populations noires aux États-Unis ont été empêchées d'acheter des maisons dans certains quartiers, y compris après la fin de la ségrégation, ont été empêchées de garder des terres. On a tout un tas de très beaux travaux sur des gens qui avaient de la terre sur la côte est américaine après l'esclavage et qui ont été progressivement dépossédés par la violence raciale et tout, dans des endroits où maintenant vous avez des espèces de complexes hôteliers qui privatisent complètement l'accès à l'eau. L'histoire du lynchage aux États-Unis, c'est très souvent sous des prétextes fallacieux, on accusait des hommes noirs d'avoir violé une femme, d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, et très souvent on s'est rendu compte qu'il s'agissait de tuer des commerçants noirs qui faisaient de la concurrence à des commerçants blancs, et que du coup on utilisait le lynchage, c'était pas juste une pratique comme ça, c'était aussi une pratique économique. Et du coup, l'héritage de l'esclavage, c'est cette histoire-là où, globalement, des populations, à chaque fois qu'elles étaient en train de monter les marches pour sortir de la pauvreté, s'élever, et qu'au fil des générations, on ait une élévation des richesses et une amélioration des conditions de vie, ont été empêchées par la violence raciale. Et la violence raciale, elle a eu cette fonction-là historiquement aux États-Unis. Et c'est aussi ça, l'une des raisons pour lesquelles on a cette pauvreté persistante dans une part importante de la population noire aux États-Unis.
Merci Audrey Célestine, merci Patrick Bolton. Cette émission est maintenant terminée. Je pense que nous reviendrons sur ce sujet puisque l'actualité nous y appellera et que aussi c'est une question très importante qui malheureusement prendra probablement beaucoup de temps à être résolue. Vous pouvez nous réécouter sur votre smartphone via l'application Pure Radio de RFI ou nous retrouver sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.